Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quand je serai grande, je serai astronaute.
Moi, quand je serai grande, je serai actrice.
Bienvenue sur Les Enfants du Bruit et de l'Odeur. Nous sommes deux amis, Ulrich et moi, c'est Priska. Un lundi sur deux, nous abordons avec nos invités les problématiques liées au racisme et aux discriminations que parents, enfants, adolescents et jeunes adultes vivent de la maternelle au banc des grandes écoles. Cet épisode a été enregistré en juin 2021. Jean-Victor Virea a 23 ans. Il est étudiant en sociologie et militant antiraciste. Il porte auprès de nombreux médias français les questions sur l'adoption transraciale. Il est né au Cambodge et vit en France alors qu'il n'avait que quelques mois. Il grandit ensuite dans un milieu principalement blanc. Pour Les Enfants du Bruit et de l'Odeur, il a accepté de revenir sur son enfance et les biais racistes au sein de sa famille. Dans le but de protéger les enfants adoptés, Jean-Victor souligne la nécessité d'éduquer à l'antiracisme les personnes souhaitant entamer une démarche d'adoption transraciale. Il fait d'ailleurs le parallèle entre le vécu des enfants dits « métis » et celui des enfants adoptés transraciales. Alors prenez place et bonne écoute. Bonjour Jean-Victor, ça va ?
Bonjour, ça va et toi ?
Oui, très bien, merci. Bah écoute, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui parmi nous sur Les Enfants du Bruit et de l'Odeur. Est-ce que tu pourrais te présenter un peu à nos auditorices ?
Oui, pas de souci. Donc, je m'appelle Jean-Victor, j'ai 23 ans, j'ai dit toujours, je réfléchis, j'ai bien 23 ans, 24 en fin d'année. Je suis étudiant en sociologie à Paris 8, à Saint-Denis. Et au-delà de ça, voilà, je suis adopté transracial, ce qui est une de mes principales préoccupations de discussion et d'engagement. Et à côté de ça, je gravite autour des luttes antiracistes, décoloniales, violences policières, voilà, dans ma vie de tous les jours. Et voilà, au-delà de ça, voilà.
C'est déjà pas mal, hein.
Oui, voilà. Il y a beaucoup de choses. J'ai écouté de la musique. D'accord. Et on reprend la vie post-confinement. On profite des réouvertures. Voilà, des terrasses, exactement.
J'ai vu, oui. Alors, qu'est-ce que tu appelles, toi, adoption transraciale? Est-ce que tu pourrais nous expliquer, s'il te plaît?
Oui, pas de souci. Alors, dans mon cas, c'est, je suis une personne sud-est asiatique. Donc, je suis né au Cambodge, plus précisément. Et j'ai été adopté par des parents blancs. Voilà. Mes deux parents sont blancs. Et à côté de ça, j'ai aussi un frère qui lui aussi a été adopté et donc lui il est noir. Donc voilà, on a une famille assez je veux dire atypique, en tout cas peut-être pas maintenant, mais en tout cas pour l'époque, je pense que c'était pas commun de voir une famille composée ainsi. C'est vrai que mes parents me disaient qu'ils avaient déjà eu affaire à des réflexions un peu beaucoup déplacé quand même. Notamment c'est ma mère qui m'avait raconté qu'un jour des gens leur avaient dit que notre famille ça ressemblait à l'UNICEF. Voilà.
D'accord. Bah,
je pense qu'à l'époque c'était moins courant. En tout cas vu d'une manière différente que qu'aujourd'hui. On a une vision quand même assez plus vaste de la famille et de ce que ça représente que avant. Ouais.
Alors, quand tu dis transracial, en fait, ça veut dire que c'est une adoption, pas des blancs avec des blancs, ou une personne asiatique avec une personne asiatique. C'est plutôt le fait que tes parents soient blancs, c'est ça.
C'est ça, oui, d'une race différente. Voilà, vu qu'on ici on dit ce mot, voilà, il est pas tabou, mais c'est ça, voilà. Ou l'enfant pour moi là est d'une race différente que les parents qui l'adoptent.
D'accord. Et c'était comment du coup ton enfance à toi? Comment c'était? Ouais.
Alors mon enfance, je la sépare souvent en deux chapitres, si je puis dire. Le moment où je suis né au Cambodge, où je suis resté là-bas, voilà, environ 2 ans avant d'arriver en France et que mes parents soient venus me chercher. Donc cette partie-là, j'ai vraiment aucun souvenir. J'imagine de par mon bas âge, ou alors après peut-être que des gens ont des souvenirs de leurs premières années. Moi c'est pas le cas. Moi mes souvenirs c'est mes parents qui me racontent des anecdotes par les photos aussi, parce qu'on a vraiment des à la maison on a des euh, on a des gros albums photos avec des avec moi là-bas, eux qui viennent me, enfin dire eux qui viennent me chercher, mais ils sont quand même restés, il y a quand même eu un temps où eux sont venus là-bas,
ils sont restés
quand même, exactement, où moi j'étais encore à l'orphelinat puis à la crèche là-bas. Et voilà, tout ce temps-là où j'ai fait mes premières années, premiers mois plutôt, au Cambodge. Donc voilà, comme je disais, j'ai aucun souvenir de là-bas. C'est vraiment voilà, des souvenirs qui me sont racontés par mes parents, par les photos. Et après, il y a le moment où je suis arrivé en France. Et donc voilà, pour moi, c'est vraiment une coupure, quoi. C'est vraiment une coupure d'un renouveau en France où à partir du moment où je suis arrivé là-bas. Donc on a vécu à Amiens pendant.
Pourquoi tu fais cette tête avec Amiens? Il y a un truc avec Amiens?
Pas du tout.
On a vécu à Amiens.
Non, je vais dire oui, c'est bien cette ville-là. Aucun souvenir non plus. Vraiment, voilà, bon, on n'est pas resté longtemps. Et puis après, on est arrivé à Rennes, où là, par contre, on a vécu à Rennes. Et c'est là, moi, où mes souvenirs commencent. C'est là où je commence à composer un peu mon enfance. On a vécu quelques années à Rennes avant de déménager à Cesson-Sévigné, qui est une ville à côté de Rennes. C'est dans la banlieue rennaise. Voilà, c'est une banlieue... bah familial hein, clairement familial, c'était bien parce que on avait c'était petit mais assez grand quand même, on avait la grande ville et en fait j'ai grandi là-bas, j'ai fait mon école maternelle, primaire, collège, lycée. Donc voilà,
donc tu avais 3 ans à peu près, 4 ans quand tu es arrivé sur Rennes.
Ouais c'est ça, vraiment. D'accord. Et là-bas bah c'est là où je suis construit. Donc voilà, après ça restait assez Cesson-Sévigné, reste toujours une ville très blanche. Donc j'ai vécu, c'était vraiment un quota quoi, vraiment à l'école on était 3-4 enfants racisés, c'était vraiment moi la personne asiatique, 2-3 personnes noires et c'était tout quoi. C'est vrai que moi la seule personne asiatique de mon entourage, enfin de mon entourage, même pas de mon entourage, mais qui était à proximité si je peux dire, c'était une fille qui était chinoise. Et en plus elle avait l'âge de mon frère, donc on était même pas dans la même promo. Et sa mère enseignait le chinois à l'école primaire, et mais voilà, j'ai jamais eu de lien avec elle, et il a fallu que j'attende le lycée en fait pour avoir mes premiers amis racisés en fait.
D'accord. Donc tous tes amis étaient blancs jusqu'à
totalement,
ce que tu sois
totalement
au lycée.
J'ai vécu dans un environnement blanc, et même les amis de mes parents par exemple, ils étaient blancs. Ils avaient pas d'amis racisés, ou du moins on les voyait pas régulièrement comme leurs amis blancs. Donc j'ai évolué dans cet environnement où la seule personne non blanche c'était mon frère. Mais voilà, donc on a grandi dans la blanchité. Et c'est vrai que moi ça a fait que j'ai mis énormément de temps à me considérer comme une personne sud-est asiatique en fait.
D'accord.
Vu que pour moi je me voyais comme une personne blanche. Je voulais l'être aussi pour bien m'intégrer, pour être bien à l'école, être comme mes camarades, être dans leur groupe d'amis, etc. Et c'est vrai que à ce moment-là, pour moi ça posait pas de problème, en tout cas de pas leur ressembler. Mais maintenant avec du recul, voilà, je me rends compte quand même par exemple d'agressions que j'ai pu subir à l'école, de moqueries, etc. Mais je pense que sur le moment je réalisais pas, en fait j'avais pas le vocabulaire, j'avais pas le recul pour me dire que c'était du racisme. Et j'avais plus une position de rigoler avec eux en fait.
Donc tu rigolais du racisme
que
tu subissais.
C'est ça que je subissais, voilà. Pour m'intégrer, voilà, je pense pour bien m'intégrer. Et voilà, j'avais pas, et je pensais pas que c'était grave, je pensais pas que ça allait m'affecter comme ça l'a fait finalement, parce que à partir du moment où j'ai pris du recul, où j'ai réalisé tout ce vécu-là, ça m'est vraiment revenu d'un coup, et je l'ai vraiment très mal vécu pendant une période, mais c'était au lycée quoi. Quand tout ça m'est revenu, je me dis ah oui quand même. Très violent quoi.
T'as accumulé tout ça, et puis au bout d'un moment c'était un trop plein et ça t'est revenu
exactement,
dans la tête quoi.
Ça m'est vraiment revenu dans la tête, et c'est là où voilà, je pense que j'ai eu une dépression en fait à cause de tout ça, en plus de tout ce qui est adoption, où j'ai commencé à m'interroger voilà sur mes origines, sur qui je suis. Et je pense que comme chaque personne, on a toujours un moment de crise identitaire. Après voilà, en tant que personne adoptée, je pense que voilà c'est différent. Et en tant que personne racisée aussi dans une société blanche quoi, donc ça a été un surplus donc.
Et du coup, comment tes parents à toi le vivaient de ça, quand tu recevais par exemple des réflexions racistes, ou quand il y avait des comportements racistes envers toi?
Alors j'ai pas le souvenir d'avoir vécu du racisme quand mes parents étaient là.
D'accord.
C'était vraiment juste moi avec mes camarades à l'école. Même dans la rue peut-être. Après, dans la rue, j'ai pas le souvenir en tout cas d'avoir vécu du racisme. Mais ouais, c'était plus dans le milieu scolaire. Dans le milieu scolaire. Mm. Mais c'est vrai que la première fois où j'ai parlé de racisme à mes parents, c'était très tard. C'était vraiment il y a 2 ans. C'était vraiment il y a 2-3 ans, à peine, hein, vraiment à peine. Mais quand j'étais, quand je suis parti de Cesson, de Rennes, que je suis arrivé à Paris, et on a commencé à parler de racisme ensemble, parce que ça a jamais été un sujet de conversation. On en avait jamais parlé, que ça soit avec mes parents, que ce soit avec mon frère. Ça, il y a pas un moment où ça a été amené sur la table. À mon plus grand regret, avec le recul, parce que c'est vrai que, mais je pense que voilà, mes parents quand ils m'ont adopté, et même toujours à l'heure actuelle, bah j'étais leur enfant et il y avait pas de question de race différente, quoi. C'était c'était vraiment colorblind, quoi. C'était vraiment c'est notre enfant, donc on voit pas la couleur. C'est vraiment ça.
Ouais, c'était colorblind.
Donc il y a pas eu de conversation en fait autour du racisme qu'on allait subir. Et c'est très récemment où je leur ai dit en fait que je subissais du racisme, et ça a été un, je sais pas si ça a été un choc, mais ça a été un réveil, si je veux dire, pour eux. Parce qu'ils disaient, ah bon, comment ça, même à Rennes, même à Cesson, comme si le racisme c'était présent que dans les grandes villes et pas dans les petites villes. En fait, c'était pire parce qu'il y avait que des personnes blanches.
Mais c'est drôle que tu dis ça, parce que tu vois, quand je vais dans des grandes villes, à chaque fois, on me dit non, mais attends, il y a plus de racisme en fait dans les petites villes. Oui. Et quand je vais dans les petites villes, les gens me disent ah non, mais à Paris c'est pire, quoi. Et voilà. Donc en fait, non, le racisme il est partout.
Il est partout, non, totalement.
Il n'y a pas de frontières.
Exactement, voilà, ça dépend pas de la capacité de la ville, mais c'est vrai que je pense que ce qui m'a en tout cas le plus marqué quand j'étais à Cesson ou à Rennes, c'est que vu qu'il y avait très peu, en tout cas moi quand j'ai grandi, de présence de personnes qui me ressemblaient, ça a été d'autant plus difficile, quoi. Ça a été d'autant plus difficile avec le recul, parce qu'encore à ce moment-là je m'en rendais pas compte. Mais donc c'est à ce moment-là où on a parlé de racisme avec mes parents, et c'est là où il y a eu un fossé, en fait. Il y a eu un fossé qui s'est creusé, parce que comme en tant que personne blanche, non éduquée sur le sujet, qui n'avait pas fait de recherche, ça a été assez compliqué, voilà, de parler de ces sujets-là, parce que c'est pas une, comment dire, maintenant avec le recul, c'est vrai que ça a été, sur le moment c'était très compliqué pour moi. Il y a vraiment eu un an et demi où entre nous c'était assez difficile comme rapport, parce que moi c'était le moment où justement je faisais face au racisme, je me renseignais dessus, je lisais dessus, j'échangeais avec des personnes de mon entourage qui étaient aussi, qui le subissaient, voilà, que ce soit des personnes persicomédiatiques, que ce soit des personnes noires, des personnes arabes, etc. Et à côté de ça, j'avais mes parents qui galéraient, en fait, qui pédalaient, parce qu'ils étaient pas du tout, ils s'étaient pas du tout renseignés sur ça, et ils commençaient à le découvrir. Mais voilà, comme chaque personne blanche a des biais, il y a de la fragilité aussi, et j'ai eu affaire à tout ça. Et en plus, venant de ses parents, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué parce que moi, mes parents, c'est censé être des personnes qui me protègent, qui me croient. Et à ce moment-là, c'était pas le cas, en fait. Ou alors, elles me croyaient, mais c'était,
minimisé?
Exactement. C'était vraiment minimisé. Où je pouvais leur raconter des anecdotes et tout ça. Ils disaient, oh, mais tu sais, les personnes racistes, c'est juste des personnes bêtes. Voilà, c'est vraiment un racisme individuel et non systémique. Voilà, donc c'est juste des personnes bêtes. Faut pas faire attention à elles. Voilà plein de réflexions de personnes blanches non éduquées sur la chose. Et voilà, moi en tant que leur enfant, en tant que personne qui subit le racisme, ça a été très très compliqué à vivre. Ça a été très très compliqué à vivre, et il y a eu une période où voilà, c'est allé jusqu'à une rupture en fait familiale, où c'était pendant le premier confinement, où je suis revenu vivre à Rennes avec eux, enfin à Cesson. C'était la première fois que ça arrivait, voilà, qu'on restait collés
de nouveau
aussi
ensemble,
longtemps, voilà. Et c'est vrai que ça a été très difficile. Ça a été affreux parce qu'il y a eu des réflexions, parce qu'il y a eu des remarques, que eux ne comprenaient pas mes engagements aussi, antiracistes. Et, voilà, je pense que, voilà, peut-être, qu'ils me percevaient comme quelqu'un de radical, qui en faisait peut-être un peu trop. Et à la fin, ça a été tellement insupportable que, je suis parti, en fait. Et à la fin du premier confinement, j'ai vraiment coupé les ponts. Je suis revenu à Paris, j'ai dormi chez des amis à droite à gauche. Et on ne s'est pas parlé pendant des mois. Je suis parti en mai et on s'est reparlé uniquement vers septembre, octobre. Parce que moi, c'était une accumulation de propos qui m'ont blessé, dans un environnement dans lequel je me sentais plus du tout en sécurité. Et voilà, maintenant quand je parle avec d'autres amis ou d'autres adelfes adoptés, bah c'est vrai qu'on est beaucoup à avoir vécu ça, le racisme de nos parents, le racisme de nos parents, de nos familles, et ça, bah parce qu'il y a pas eu de déconstruction au préalable de nos adoptions.
Qu'est-ce que t'aurais aimé avoir comme comportement de tes parents? Qu'est-ce que t'aurais aimé qu'ils te disent, qu'ils fassent?
Qui me parle de racisme, justement. Déjà, qui me croit quand je leur dis que je vis du racisme, sans minimisation, sans déni aussi, et qui est une remise en question de leur part et aucune fragilité, parce que ça a été vraiment constant, quoi, le fait que je leur dis, par exemple, voilà, vous avez des biais racistes parce que vous dites ça, parce que vous agissez comme ça, et eux, tout de suite, ils se sentent attaqués, et dans leur personne, mais comment ça, nous, on est... En plus, voilà, mes parents, c'est des personnes très... c'est des personnes de gauche, progressistes ou qui se voient comme telles, donc leur dire en plus à ces personnes-là, mais si, en fait, vous êtes raciste, c'est pas possible. Ils disent, non, comment pas être raciste? Parce que je pense qu'il y a aussi un imaginaire que pour eux, le racisme, c'est le Rassemblement National, c'est les fachos, c'est les personnes qui vont aller agresser, qui vont aller attaquer, tuer, pas juste par des propos, tu vois. Et donc, c'est vrai que ça, je pense, c'est d'autant plus difficile à entendre pour ces personnes-là, de leur craquer un peu cette carapace, justement, de personnes de cette image qu'eux, ils étaient en mode, nous, on est les personnes de gauche, on est progressistes.
On est des gens bien.
Et ça, je pense que pour eux, c'est très difficile. Ça a été très difficile, en tout cas. Donc voilà, qu'on en parle quand on était jeune, qu'on va juste être protégé de tout ça. Et je pense que c'est important aussi en tant que... Voilà, parce que moi, maintenant, je me protège, je me dis, si un jour j'ai des enfants, comment je reparlerai de racisme? Mais je pense que c'est vraiment important de parler à ses enfants de ça, de la violence à laquelle on peut se retrouver projeté, et même au sein de la société. Donc voilà, j'aurais aimé qu'ils me parlent de tout ça, qu'on en parle même avec mon frère, par exemple, parce que bon, voilà, mon frère, il est noir, donc voilà, lui aussi, je pense qu'il a une expérience du racisme assez, assez forte, j'imagine. Et ça, on n'en a jamais parlé non plus entre nous.
Aujourd'hui?
Non, même aujourd'hui. Parce que, on est très différents avec mon frère, on n'a pas la même vision, et les mêmes parcours vis-à-vis de l'adoption. Donc, c'est assez compliqué. Et voilà, l'adoption, c'est vrai que c'est assez intime aussi comme sujet. Que ce soit avec lui ou avec d'autres personnes, c'est vrai qu'on a des vécus assez, je pense assez pluriel, voilà, l'adoption, où certaines personnes ont décidé de commencer ces cheminements, ces parcours de recherche d'origine, de quête identitaire, tandis que d'autres non, et c'est tout à fait normal. Enfin, vraiment, voilà, chacun ses choix, parce que ça reste très éprouvant comme cheminement. Voilà, nous, on en parle avec des amis, voilà, parce que c'est très intime, parce que c'est très personnel. Et ça nous fait réfléchir à des choses auxquelles on n'a pas forcément envie, voilà, de trauma, peur de l'abandon, et c'est lourd, c'est un bagage très lourd à porter. Donc je comprends tout à fait que certaines personnes ne veulent pas s'y aventurer, quoi. Donc j'aurais aimé que mes parents me parlent de tout ça. Et en fait, c'est assez, c'est dommage, parce que autant ils ont toujours été très ouverts sur l'adoption, ça a jamais été un sujet tabou. Ils m'ont toujours dit t'as été adopté, ils m'ont toujours raconté comment ça s'est passé, des histoires avec ma nounou qui a été la première personne qui s'est occupée de moi. On a des photos, ils m'ont toujours dit voilà, elle s'appelait Visma, elle s'est occupée de toi jusqu'à ce qu'on arrive. Voilà, plein de très belles années, vraiment plein de très belles anecdotes. Mais à côté de ça, par contre, le racisme, voilà, ça a été...
Ton vécu de personne racisée n'était pas... tu devais être aussi blanche, en fait, un petit peu. Tu devais être aussi blanc, pardon.
Totalement.
Ton vécu de personne racisée n'était pas pris en compte.
Exactement. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant, parce que maintenant, quand je parle de ça, quand je parle de ça avec d'autres personnes adoptées ou non, mais des personnes racisées, des personnes non blanches, c'est vrai qu'on se rend compte qu'en tant que personne issue de l'immigration ou en tant que personne métisse aussi, on a des problématiques similaires sur la recherche identitaire, sur une double identité, sur un côté blanc, un côté pas blanc, comment vivre avec ses identités, comment vivre avec des parents blancs, etc. Donc c'est vrai que c'est des problématiques qui nous réunissent, en fait. Le bon point maintenant, c'est que voilà, mes parents, je pense que l'éloignement a été nécessaire. Il a été difficile, je pense, vraiment pour nous deux. Et c'est vrai que c'est pas... autant, il y a 2 ans, quand ça s'est passé, j'étais très... J'avais un regard différent vis-à-vis de mes parents. Je leur en voulais énormément. Il y avait beaucoup de colère, vraiment énormément beaucoup de colère vis-à-vis de ça, de leur comportement, mais... Pour moi, c'est légitime, hein. Vraiment, je m'en veux pas du tout d'avoir réagi comme ça, d'avoir répondu, parce que c'est très difficile. Encore une fois, il y a eu des propos qui ont été dits, qui ont été très blessants, en fait, et très, 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 très violents, d'autant plus que ça vient de la part de mes parents.
De tes parents, oui.
Voilà. Maintenant, avec le recul, voilà, c'est pas, comment dire, quand je parle de ça, c'est pas faire le procès de mes parents, pas du tout, surtout que maintenant, nos relations sont très apaisées, il y a eu des excuses, donc on est vraiment maintenant dans un processus de, je pense, de reconstruction, de réparation de notre relation, mais c'est juste des faits, ce qui s'est passé, les comportements qu'ils ont pu avoir, et maintenant j'en parlerai plutôt pour par exemple les personnes qui veulent adopter, par exemple, leur dire comment bien faire, en fait, en tout cas comment faire au mieux pour que votre enfant se sente soit épanoui, que les relations soient apaisées. Et ça, c'est très intéressant, parce que à partir du moment où j'ai commencé à parler d'adoption sur les réseaux sociaux, Twitter, j'ai eu pas mal de personnes soit qui ont adopté, soit des personnes qui souhaitent adopter, qui venaient me voir et qui me demandaient comment bien faire, en fait. Et ça, je trouve que c'est une belle démarche. En même temps, je me dis c'est des personnes qui veulent, qui n'étaient pas forcément conscientes de tout, de toutes les dynamiques de domination raciale, etc., et de ce que pouvait vivre l'enfant. De l'adoption aussi, de qu'est-ce que ça signifie aussi d'aller chercher un enfant dans un autre pays, tout le côté déracinement, c'est très violent mine de rien, et ça c'est vrai que c'est un discours qui est pas bien reçu. Enfin, moi voilà, je vois que quand je parle d'adoption, quand je vois d'autres amis ou proches adoptés qui en parlent, on se prend des attaques constantes, c'est très violent. C'est de parler d'adoption sur Twitter parce qu'il y a cette vision de
l'enfant qui a été sauvé,
exactement, voilà, c'est très misérabiliste, mais c'est ça, l'enfant qui a été sauvé, tu dois tout à tes parents parce qu'ils t'ont sauvé, ils t'ont permis d'avoir une meilleure vie, parce que sans tes parents tu serais, enfin moi ce que j'ai reçu comme attaque, c'était sans tes parents tu serais à genoux dans les chandries à récolter du riz, à faire des chaussures dans les usines Nike et tout ça, et c'est un discours, et je pense que malheureusement c'est un discours qui est très généralisé. Et je pense que beaucoup de gens pensent comme ça, en tout cas cette notion d'être redevable. Et en fait, en même temps, c'est drôle. Enfin, drôle, pas drôle. Mais c'est vrai que je vois que c'est un discours, que en tant que personne issue de l'immigration, c'est un discours qu'on entend aussi vis-à-vis de notre pays, de la France.
Oui.
Mais que là, en plus, ça se casse sur les parents. Donc en plus, il y a un côté familial. Il y a un côté.
Qu'est-ce que tu veux dire? C'est un discours qu'on entend aussi sur notre pays, sur la France.
Dans le sens, c'est vrai que je pense que quand une personne racisée non blanche en France, on entend ce discours-là. On doit être redevable envers notre pays, on doit être reconnaissant de ce que nous a offert la France.
On doit quelque chose à la France, parce que la France nous aurait sauvés.
Exactement. Mais c'est très misérabiliste, et c'est toute cette notion de on a été sauvés par la France, et on lui doit tout. Et c'est grâce à la France qu'on a eu notre éducation, qu'on a eu de là où on en est aujourd'hui, alors qu'on sait très bien que c'est faux, maintenant on se sait, après avoir pris du recul sur tout ça. Mais que là, encore pas, là en plus, en tant que personne adoptée, c'est nos parents, en fait, et ça rentre dans le cadre familial. Et c'est, je sais pas si c'est d'autant plus difficile, mais c'est très intime, quoi. Ça, là, ça rentre vraiment dans le cadre de l'intime. De là, on devrait tout à nos parents, parce qu'ils nous ont sauvés. C'est un discours qui n'est pas remis en question. Et que nous, quand on en parle, on fait face à une grande violence parce qu'on ose dire que non, que sinon on devrait être redevable à nos parents. Nos parents devraient l'être aussi. Et ça, c'est un discours, par exemple, mais c'est un discours qui est beaucoup moins entendu que nos parents, parce que c'est grâce à nous, en fait, que nos parents, ils ont une famille, en fait. Et que la demande est venue de la leur, et pas de la nôtre. Et que c'est eux qui ont décidé d'adopter. Et ceux qui voulaient une famille, ils ont pas pu pour diverses raisons, mais que, ils devraient, sinon on doit être reconnaissant envers nos parents, qu'ils le soient aussi, en fait. Et juste un discours comme ça, c'est irrecevable.
Et puis il y a des personnes qui ont été dans un réel mal-être parce que ne pouvons pas créer de famille, ne pouvons pas c'est qu'il y avait un vide aussi au sein de leur famille, au sein d'elles-mêmes, pour pouvoir aller chercher d'autres enfants à l'étranger comme ça.
Exactement.
Aussi.
Exactement. Mais ça c'est très tabou, c'est très tabou, et puis ça remet en question. De toute façon, je pars du principe que quand on parle d'adoption, et d'autant plus dans le cadre transracial, mais d'adoption même en général, ça veut dire qu'on parle de racisme, on parle de famille, de ce que c'est une famille, et on remet tout ça en question, et sur des, dans un pays où la famille c'est très important, et où ça a jamais été questionné. Je pense que c'est ça aussi qui dérange, c'est le fait qu'on puisse chambouler un peu tout ça de ce que c'est une famille, du racisme dans la famille, du racisme dans la société française en général. Et maintenant, je trouve ça bien, parce que à l'heure actuelle, où maintenant on a des modèles de famille tellement divers et variés, maintenant la famille, c'est pas uniquement une famille
papa maman.
Maintenant ça peut être des familles avec des personnes adoptées, ça peut être des familles monoparentales, homoparentales, et tant mieux. Et c'est là je me dis que le sujet d'adoption, autant parler D'autant plus maintenant, en fait. Maintenant, où il y a des modèles de famille assez divers, quoi.
Et puis, c'est important aussi le rapport de domination avec les pays.
Totalement.
Pourquoi avoir été... Enfin, moi, j'ai encore un autre rapport avec l'adoption, mais de se dire... chercher des enfants comme ça dans des pays, déraciner des enfants, il y a peut-être aussi d'autres possibilités que
totalement.
De les enlever totalement de leur milieu de vie, de leur culture, pour les emmener ici en Occident, en France.
Ça, ouais. Oui, et puis c'est vraiment maintenant quand j'y pense, c'est vraiment une grande violence de déraciner une personne de son pays. Voilà. Et moi encore, voilà, comme j'étais adopté jeune, comme je le disais, j'ai pas de souvenir de mon pays d'origine. Mais maintenant, soit je me questionne, je me dis voilà, est-ce que quand je reviendrai en Cambodge, parce que c'est vraiment maintenant de mes une chose que j'aimerais énormément faire dans mon parcours de quête identitaire, de retourner là-bas. Et je me dis est-ce que si ça se trouve, j'aurai peut-être des souvenirs enfuis qui vont ressurgir, peut-être, hein, je sais pas, que ça soit des sonorités, des odeurs, les paysages, etc. Et ça, je saurais pas avant d'y retourner. Mais en tout cas, voilà, c'est très violent pour maintenant, pour moi, de se dire qu'on va, voilà, retirer un enfant de son pays, le déraciner. Et voilà, c'est vraiment une immigration forcée, finalement. Et voilà, de l'enlever du pays où il est né, de son entourage, de lui enlever sa langue, de lui enlever sa culture, pour l'emmener dans un pays occidental où, en plus, l'enfant va subir du racisme. Et mais ça, voilà, je pense que c'est tout un pêle-mêle de choses auxquelles les parents ne pensent pas, en fait, quand ils le font.
Bah, bien sûr.
Et eux, ils voient juste le fait de, nous, on veut avoir un enfant. On a la possibilité d'en avoir un dans un autre pays. Et c'est tout, en fait. Et c'est là où je pense que c'est très complexe, parce que, bah, il y a, l'amour d'un parent ne fait pas tout. Et la preuve est que s'il y a l'amour, tant mieux. Mais à côté de ça, bah, il y a toutes ces problématiques-là, en fait. En tout cas, en ce qui nous concerne, voilà, il y a le racisme, il y a le déracinement identitaire, et ça, c'est primordial d'en parler aussi.
Du coup, toi, comment t'as fait pour te reconstruire? Parce que, comme tu disais tout à l'heure, ça a été difficile pour eux, mais je pense que ça a été quand même très difficile aussi pour toi, personnellement. Comment tu fais pour pouvoir passer à autre chose ou te reconstruire?
Alors moi, ça fait assez récemment que je m'intéresse à la question de l'adoption, que ça soit d'un point de vue personnel, ou d'un point de vue juste théorique et de fait. Moi, ça fait 2-3 ans maintenant que déjà je me revendique comme personne adoptée transraciale, comme une identité, comme je me revendique comme une personne en sud-est asiatique ou une personne homosexuelle. Donc c'est vraiment les trois facettes de mon identité. Et c'est vrai que c'est vraiment venu par phase, en fait. Je me suis considéré premièrement comme une personne homosexuelle, et puis après comme une personne d'est asiatique, et comme une personne adoptée. Donc ça a vraiment été un cheminement au fur et à mesure. Et donc voilà, la partie adoptée est vraiment venue en dernier. Donc c'était, c'était il y a, comme je disais encore une fois, c'était il y a 2-3 ans. Et en fait, ça a commencé quand j'ai été accompagné par une psychologue. C'était vraiment, c'était génial. Vraiment, j'ai eu la chance de tomber. En plus, elle était blanche. Donc j'ai vraiment eu la chance de tomber sur une personne blanche, mais qui était ouverte aux questions raciales, qui les comprenait, j'imagine, ou du moins qui les acceptait, voilà, qui m'accompagnait.
Qui ne t'a pas fait vivre de violence psychologique, par rapport au racisme.
Alors que, j'ai eu peur, voilà, je me dis, voilà, elle est blanche, comment elle va réagir quand je vais parler de racisme systémique, comment elle va réagir quand je vais parler de microagression, est-ce que je vais me confronter finalement à son racisme, et finalement, tout est très bien allé, donc vraiment tant mieux là-dessus. Et c'est elle, au début, qui, quand on parlait de ma relation avec mes parents, qui a été assez compliquée, même avant l'adoption, voilà, et celle qui m'a orienté, on va dire, sur l'adoption, celui sur lequel j'avais jamais réfléchi avant ça. Ça a commencé par là. Ensuite, je suis arrivé à Paris. En fait, ça s'est vraiment accéléré quand j'ai rencontré, Amandine Gay, dans le cadre de l'élaboration de son documentaire, donc il est sorti le 22 juin. Et ça a commencé par là. Vraiment, là, ça a vraiment été une nouvelle étape. Je l'ai rencontré, on a parlé d'adoption, et ça a été la première fois, en fait, comme je disais, c'était la première fois où j'ai parlé de mon histoire, en fait, de mon histoire, de mon point de vue, de mon parcours. Et suite à ça, j'ai rencontré Douce et Anthony, donc co-créatrice du podcast Extimité.
Un magnifique podcast, pardon, à écouter, absolument. Extimité est magnifique.
Et j'ai rencontré pour parler d'adoption en fait, et c'est là où ça a pris un virage. C'est là où mes engagements, l'adoption est rentrée en compte, et où j'ai commencé à en parler sur Twitter, sur les réseaux sociaux, dans mon entourage. Et c'est vrai que c'est vrai parce que j'ai une anecdote où je me souviens que j'ai une amie que je connais depuis maintenant très longtemps, où je lui parle de racisme, où je lui parle d'adoption. Elle m'a regardé, elle m'a dit mais c'est la première fois que tu me parles de ça. Et c'est la première fois que je te perçois maintenant en tant que personne asiatique, et elle est blanche. Et pour moi, c'était la preuve que, avant, j'en parlais pas. Voilà, c'est la preuve que avant, j'en parlais pas, que moi-même, je me percevais comme blanc. Et ça a été aussi un déclic, quoi. Et donc, voilà, c'est à partir de là, et comment maintenant je me construis autour de ça. J'ai replongé dans mon dossier d'adoption. Mes parents m'ont donné vraiment un gros dossier où il y a plein de choses. Il y a des lettres de recommandation de la famille pour que mes parents puissent adopter. Il y a des papiers d'identité. Il y a des brochures de presse sur l'adoption. Il y a énormément de choses où j'ai pu me faire connaissance avec moi-même finalement. Il y a beaucoup de papiers écrits en khmer, donc que je peux pas traduire, donc mais eux, bref, je pouvais leur demander. Maintenant, jusque comme j'ai des maintenant avec Twitter, c'est la magie des réseaux sociaux. Je sais que si je voulais demander, par exemple, à ce que quelqu'un puisse me traduire, ça serait le cas. Et voilà, il y a des photos de moi petit, il y a des lettres sur les circonstances aussi de mon adoption. Donc ça a été assez dur finalement, ça aussi, à lire. Le fait que voilà, j'étais laissé à l'orphelinat par ma mère à telle date, que j'étais en malnutrition, que j'étais vraiment en très très mauvaise santé quand ça a été le cas. Et ça a été très difficile. Enfin, je me rends compte que je dis beaucoup le mot difficile, mais c'est le cas. Ça a été très difficile finalement pour moi à découvrir tout ça. Et il y a des moments où je l'ai mal vécu. Je me souviens, il y a des soirs où j'avais des grosses remises en question, où je voulais pleurer, où j'ai pleuré, parce que je réfléchissais à tout ça, à qui sont mes parents, qui sont mes parents biologiques, qu'est-ce qu'ils deviennent, pourquoi ils m'ont abandonné aussi, pourquoi est-ce que j'étais pas assez bien, etc. Il y a tous ces questionnements qui sont très 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 douloureux en fait, et auxquels faire face. Et c'est là où je me suis dit aussi qu'on n'était pas bien accompagné, en tout cas, en tant que personne adoptée. Que voilà, on arrive dans une famille, tout se passe bien, donc c'est bon. Voilà, la personne va bien grandir, la personne est dans une bonne... Et bien lotie, bien logée, avec des parents qui l'aiment, mais encore une fois, voilà, l'amour ne fait pas tout. Et en fait, voilà, non, sauf que nous, on se retrouve face à des questionnements identitaires, face à un isolement aussi. Et c'est vraiment un isolement, voilà. Maintenant, moi, j'ai vraiment ça comme un isolement, d'avoir à faire à tout ça... En plus, par exemple, du racisme de nos parents, de se dire qu'on n'a personne à qui en parler, on n'a personne à qui se confier, on est juste là. On est juste là avec nous et nous-mêmes. Et malheureusement, maintenant, avec des recherches, bah voilà, il y a des études qui ont été faites, des études anglophones, hein, qui montrent que les personnes adoptées ont, je t'ai jamais confirmé cette phrase, mais sont plus aptes à se suicider, par exemple, que des personnes qui ont été évidentes dans leur famille
d'origine.
Font plus
de tentatives de suicide.
Exactement,
et se suicident plus que les autres.
Que des personnes qui ont vécu dans leur famille adoptive, qui sont plus sujets à la dépression, à des addictions, alcool, drogue et tout ça. Et j'ai lu ça et je me dis, mais en fait, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce que moi-même, je suis passé par là. Mais c'est juste qu'à ce moment-là, on n'a pas de ressources, on n'a pas d'aide. Et c'est très grave, voilà. Et maintenant, quand je regarde des témoignages, des conférences, des discussions entre personnes adoptées, où ça s'est mis en avant, où on dit bah si en adoptant une personne, l'objectif numéro un c'est pour le bien-être de l'enfant, bah aller jusqu'au bout en fait, et aller vraiment le bien-être de l'enfant. Mais sauf que à la ligne d'arrivée, combien de personnes on aura perdu, c'est ça en fait, combien de personnes adoptées on aura perdu parce qu'elles se sont suicidées, dans quel état elles vont être à l'âge adulte, est-ce qu'elles seront totalement voilà, encore une fois, est-ce qu'elles seront totalement très fragiles psychologiquement parce qu'elles auront dû faire face à tout ça, est-ce qu'elles seront plus là, c'est ça en fait, dans quel état on sera. Et donc voilà, c'est bien beau de vouloir adopter, c'est bien beau de dire que l'adoption c'est un geste altruiste, généreux, mais à quel prix en fait. Et c'est ça pour... en tout cas moi c'est vraiment l'angle d'approche sur lequel j'ai envie d'aborder la question. Et que maintenant moi je pense que moi, mon but principal maintenant quand je parle d'adoption, c'est avant tout pour les personnes adoptées. Oui, c'est pour les parents qui veulent adopter, qui ont adopté et qui veulent avoir des conseils sur comment bien faire. Mais moi, c'est avant tout pour les personnes adoptées, pour leur apporter, voilà, pour qu'on se soutienne mutuellement, pour qu'on voit qu'on n'est pas seul dans ce parcours-là et que nos sentiments sont légitimes. Voilà, juste du soutien entre nous, du réconfort, parce que c'est très compliqué, quoi.
Mais je trouve ça assez, ce que tu viens de dire là, assez intéressant aussi, dans le sens où il y a quand même derrière tout ça à se dire, bah, est-ce qu'on est capable de voir, surtout quand c'est justement une adoption transraciale, où on en est nous en tant que parents par rapport à toutes ces problématiques que l'enfant risque de subir, où on en est par rapport au racisme, où on en est par rapport à la connaissance du pays d'adoption. Est-ce qu'on s'y connaît vraiment? Est-ce qu'on s'est intéressé à cette culture? Est-ce que on a des personnes proches de nous autour qui pourraient continuer à transmettre cette culture? Et que, en fait, l'adoption, c'est pas une muraille dans laquelle on enferme un enfant et on le module face à nous, tout simplement, et à une culture. Et on lui demanderait d'oublier toutes ses racines, tout ce qui a fait qu'il est lui, quoi, en fait.
Totalement. Bah, oui, cette question de, voilà, de double culture, de moi, enfin, voilà, de quête d'origine, c'est ça, en fait. C'est vraiment me retrouver, me reconnecter avec ces racines-là. Et voilà, moi, que ça passe, moi, c'est passé par... depuis que je suis arrivé à Paris, c'est d'autant plus simple, en tout cas, comparé à quand j'habitais à Cesson, parce que là, à Paris, je me suis fait mes premiers amis des communautés asiatiques. Mais bien, voilà, il y a les commerces, il y a les quartiers. Moi, là, j'ai la chance d'habiter à Belleville, donc mine de rien, bah, c'est un quartier quand même asiatique. Voilà, il y a le 13e. Et c'est vrai que moi, quand je suis arrivé à Paris, ça a été un bonheur. Voilà, c'était un bonheur de pouvoir retrouver ma communauté en tant que communauté Khmer, mes communautés asiatiques et les autres d'ailleurs, et de pouvoir non seulement pouvoir parler, échanger autour de ces questions-là, donc librement, d'un vécu politique, librement, sans jugement, avec des personnes qui ont vécu aussi des choses similaires, qu'on peut se comprendre, mais aussi d'un côté tout à fait, donc notamment politique, mais aussi, j'allais dire ludique, mais voilà, juste amical, et juste se dire d'être entouré de personnes qui se ressemblent, et ça fait du bien. Voilà, moi je raconte souvent cette anecdote, c'est que la deuxième année où je suis arrivé sur Paris, j'ai été invité à un nouvel an en non-mixité, entre personnes racisées, et en fait ça a été une libération. C'était la première fois où j'étais à une soirée avec que des personnes soit qui me ressemblaient ou en tout cas qui n'étaient pas blanches. Mais en même temps, c'était pas politique. Enfin, c'était politique de par le fait qu'on était que des personnes non blanches, mais c'était une soirée. C'était une soirée, on a le nouvel an, on rigolait, on parlait, on a fait connaissance. Et c'est là que je me suis dit, mais ça fait tellement de bien, en fait. Je me dis, le notre vécu est aussi autant, mais en fait, ça aussi, c'est que notre vécu, il est politique, mais dans toutes les parties de notre vie, en fait. Mais qui n'a pas forcément à l'être tout le temps non plus, en fait. Et qu'on peut partager juste des bons moments, entre personnes non blanches racisées qui nous ressemblent, mais qui en même temps, moi j'ai senti la différence quand même, quoi. C'est vrai que mon arrivée à Paris, ça a été une bénédiction, quoi. Je me suis dit, je fréquente des personnes qui me ressemblent. Encore une fois, je me répète, mais avec des vécus similaires ou pas, mais on a une expérience commune en tout cas, et on peut partager autour de ça, comme on peut juste partager un verre, on peut partager des ciné, tout ça. Et c'est tout aussi bien aussi, c'est important. Mais voilà, tu parlais de microagression, c'est vrai que c'est affreux, parce que moi, voilà, j'ai un souvenir où il y a un moment, c'était l'été dernier, j'étais avec une amie qui, elle, est chinoise, et voilà, on vivait notre meilleure soirée, on se retrouvait, c'était super, et on se balade, et là, la soirée prend fin, on va dans le métro, prendre le métro, et là, on se prend une agression raciste. Et c'est affreux, parce que tu te dis, tu passes un bon moment, et là, voilà, bim, on te rappelle qu'on n'est pas blanc et que on n'est pas, malheureusement, on n'est pas chez nous, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, hein, parce que dans leur vision, c'est ça. Et ça, c'est violent, quoi. Et c'est dommage. Enfin, c'est dommage. Le mot est très faible. Parce qu'on aimerait juste, faire comme tout le monde et genre vivre notre meilleure soirée. Mais non, il y a toujours des personnes qui viennent nous rappeler qui viennent nous agresser et nous dire, non, vous allez passer une bonne soirée.
T'as pas le droit de passer une bonne soirée. T'as l'air de bien t'amuser, là. Attends, je viens.
J'ai gâché ça. Donc, ouais.
N'oublie pas que t'es racisé quand même. T'amuses pas trop.
On est là. Donc, c'est affreux, ouais. Non, totalement. J'ai beaucoup échangé avec une autre personne qui, elle aussi, est adoptée. Et on se demandait justement vis-à-vis de comment, quand on a été, arraché à sa culture d'origine, qu'est-ce que pourraient faire les parents pour l'introduire à nouveau? C'est vrai que c'est assez compliqué parce qu'on nous dit quand on est un enfant, on n'a pas forcément comment faire pour que ça soit pas forcé, en fait. C'est ça aussi. Voilà, je pense que j'avoue que j'ai pas forcément de réponse à cette question-là. Je pense que c'est important, voilà, de. Je pense que c'est important pour les parents de créer un environnement qui est quand même comment dire, qui n'est pas, qui soit
mixte, qui soit en mixité, fait.
Exactement. Et voilà, qu'ils aient des amis, par exemple, qui sont racisés, qu'ils introduisent, voilà, sans forcer. Mais mine de rien, tu vois, à la culture d'origine, mais en même temps, c'est vrai que c'est compliqué, parce que c'est vrai que moi, quand je me revois au collège ou en primaire, mais j'étais pas du tout, c'est ce que je disais, hein, en l'enregistrement, j'étais pas du tout intéressé par ma culture d'origine, j'étais pas du tout intéressé par le fait de retourner dans mon pays, alors que mes parents me le proposaient, hein, ils me disaient, est-ce que tu aurais envie d'y retourner? Et j'étais non. Vraiment, la réponse, c'était, il y avait aucun temps de réflexion, c'était non. Je n'ai pas envie. Ça m'intéresse pas.
Mais c'est intéressant, je trouve, de questionner aussi pourquoi tu n'avais pas envie aussi petit, et pourquoi ça ne t'intéressait pas. Qu'est-ce que ça pouvait justement représenter pour toi?
Bah moi, ça représentait rien. Vraiment, c'est ça. Hein. C'est que.
Mais ce rien représentait quoi? Ah oui, bah, moi, c'est mon côté psychologie, tu sais. Hein,
voilà, je pense que comme tant d'autres, mais moi, c'est vrai que j'ai comment dire, intériorisé, hein, de toute façon, le racisme à mon encontre, et ça s'est illustré par moi qui rigole à des blagues racistes de mes chers camarades. Je dis, ah, c'est drôle. Oui, hein, moi, je rigolais, voilà, quand on me disait, genre, tous les Chinois se ressemblent, parce que bon, on sait, hein, les personnes asiatiques, c'est que des Chinois. Donc. Voilà, voilà, vous ressemblez tous, vous mangez du chien, vous mangez du riz, voilà, toutes ces merveilleuses migrations. Mais moi, je rigolais. Je disais oui, c'est vrai. Et moi, j'en rigolais. Et non seulement je rigolais, et j'en prenais part. Et je disais oui, c'est vrai, on se ressemble tous. Oui,
parce
c'est
que,
vrai.
Parce que
riz,
pourquoi?
Tu vois.
Parce que c'était, tu te disais que si tu faisais partie de ce groupe-là, c'est que tu ne faisais pas partie de l'autre groupe dont on rigolait.
Je pense que quand j'étais petit, c'était vraiment l'intégration, en fait. Je voulais être accepté de mes camarades. Je voulais m'intégrer et je voulais, être blanc. Hein. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que je disais dans l'extimité. Ça a été vraiment, et moi, c'est tourné autour de ça, c'est que je voulais vraiment être plus blanc que blanc, quoi. Je voulais vraiment être, je pense, être au plus proche de la blanchité pour pas être différent, en fait. Parce que c'est pas chouette, enfin, en tout cas, à cet âge-là, c'est pas chouette d'être différent. C'est pas chouette d'être rejeté parce que on correspond pas à la masse. Et c'est vrai que même l'adoption en général, je pense que quand il y a cette immigration forcée, quand on va chercher un enfant dans un pays, dans un autre pays pour le ramener en France, je pense qu'il y a toute cette intégration qui prend place, cette rentrée dans le moule, en fait, rentrer vraiment dans ce moule aussi, même ce moule républicain, et se dire mon pays c'est la France, et pas celui dans lequel je viens. Et je pense en plus qu'en tant que personne adoptée, vu qu'on n'a pas nos parents qui sont de nos origines, comme des personnes qui ont pu, j'imagine, voilà, venir en France avec leurs parents de la première ou deuxième génération, bah nous on est là et on est vraiment détaché, en fait, parce qu'on n'a même pas nos parents pour nous rattacher à cette culture-là, en fait. Et donc c'est radical. C'est radical et ça peut être définitif si nous-mêmes on prend pas part à cette recherche identitaire.
Et quand tu parlais d'école tout à l'heure, alors c'était comment ton parcours, ton cheminement à l'école par rapport au racisme?
Bah alors voilà, comme je disais, j'ai pas du tout été conscient du racisme que j'ai subi, et c'est vraiment très récemment où j'ai des flashbacks, ah oui c'est vrai, c'est passé ça, ah oui c'est vrai. Par exemple, il y a une anecdote, c'est que je sais plus un bras, mais je sais qu'à l'école on avait un repas spécial où on mangeait du riz, et je me souviens que quand il y avait cette journée-là, tout le monde me regardait en mode, eh, c'est du riz, mais ça te rappelle pas quelque chose? Et moi, à l'époque, j'étais pas du tout conscientisé. Donc, moi, c'était genre, j'ai dit, OK, bon, c'est pas grave, genre, tout le monde me regarde, mais c'est pas grave. Et voilà, ouais, mais avec du recul, c'était très violent. Et voilà, en plus des micro-agressions, en mode, bon, voilà, shintok, les yeux bridés, le chapeau pointu. Et ça, c'était vraiment le top 3, quoi. C'est vraiment le chapeau pointu, les yeux bridés, et les personnes qui essayent tant bien que mal de parler deux ou trois mots chinois en se disant « Ah, on parle bien et on va se moquer en disant ça, genre « Miao et compagnie » parce qu'on adore rire. » Et c'était, ouais, ça, c'était ce qui revenait assez régulièrement. Mais comme j'étais pas conscientisé, soit j'en riais. Mais honnêtement, je pense que ça faisait quand même du mal et que j'avais honte quand même bien que ça se passait. Donc c'est pour ça, c'était une manière aussi d'en rire, c'était de me dire « Ah, bon,
d'exorciser un petit peu le mal. »
Exactement, voilà, là-dedans. Et comme j'en avais pas conscience, j'en parlais pas à mes parents non plus.
Parce que donc, tu parlais à aucun adulte de ce qui se passait, ni aux enseignants, ni à tes parents. Donc, tu gardais tout ça pour toi.
Exactement. Et je pense que c'est là le fait que moi, c'était au lycée quand j'ai eu tout ce retour de bâton, où ça m'est revenu vraiment en pleine figure et ça a été colossal, quoi.
Et qu'est-ce qui s'est passé au lycée?
En vrai, je sais même plus, mais je crois vraiment qu'il y a été un déclic où j'ai réalisé tout ça. Parce que c'est au lycée où j'ai commencé à lire sur l'antiracisme, à m'éduquer là-dessus. Bah, Twitter a énormément aidé, hein, parce que j'ai commencé à suivre des personnes militantes antiracistes. Et je pense que ça a fait un cheminement dans ma tête et ça m'est revenu d'un coup. Et c'est vraiment, ça peut être vraiment étrange, j'ai comme ça, mais vraiment du jour au lendemain, bah, dépression, en fait. Et du jour au lendemain, j'ai réalisé tout ça, en plus de l'adoption, etc. Et en plus, moi, il y a eu le côté homophobie aussi. Oui. Donc, vraiment, tout ça s'est accumulé, en fait. Mm-hmm. Et du jour au lendemain, j'étais, ça va pas du tout. Ça va pas du tout parce que je vis tout ça, j'ai vécu tout ça et je vis tout ça aussi actuellement. Donc, ça va pas. Et je me souviens que j'avais écrit une lettre à mes parents parce que j'étais plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. Et j'avais écrit une longue lettre pour dire, tout ça, en fait, que ça allait pas, que je m'en sentais pas bien. Mais qu'à côté, je voulais pas les faire culpabiliser. Donc, je leur disais, mais vous avez été des bons parents, j'ai été heureux parce que voilà, mes parents, tu me posais la question comment a été mon enfance. J'ai eu une très belle enfance, mine de rien. Mmh. J'ai eu une très belle enfance. Mes parents, de par leur capital économique et culturel, on allait au théâtre, on allait au cinéma, on voyageait. On allait au ski. Chaque année, on faisait des beaux voyages. Hein. Mmh. On allait dans des pays étrangers. Voilà, j'étais en Allemagne, peu importe, Angleterre, Turquie. J'ai des très beaux souvenirs. Mais qu'à côté de ça, j'ai vécu ça et c'était aussi une manière de ne pas leur faire culpabiliser. Et je voulais pas qu'ils pensent qu'ils aient été des mauvais parents en fait. Donc c'est pour ça aussi que je me souviens, j'avais bien précisé, mais c'est pas de votre faute, vous avez été très bien envers moi, mais c'est juste que là ça va pas. Et donc pendant c'était mon année de première, ce qui a fait que j'ai redoublé parce que j'ai passé la moitié de l'année dans mon lit à plus pouvoir être dans mon lit à dormir tout le temps. Et ça c'est pour moi ça s'est résumé comme ça le retour de bâton, quoi. Parce que pendant toutes ces années, j'ai accumulé, j'ai subi, et c'est vrai que je pense que le package adoption, racisme plus l'homophobie pour une personne, je pense que ça a été dur.
C'est beaucoup, oui.
Ouais, ça a été dur à vivre. Mais voilà, au combien même, mes parents, il y a jamais eu aucun problème avec l'homosexualité. Mm-hmm. J'ai toujours été soutenu par mes amis et tout, mais mine de rien, je pense que la principale violence de la société est suffisante aussi pour en arriver là, quoi.
Écoute, merci beaucoup, Jean-Victor.
Pas de souci, merci à toi.
Voudrais juste voir, en fait, si on peut terminer cet épisode avec quelques conseils pour les parents, des références, des ressources.
Ouais, pas de souci.
Est-ce que tu aurais quelques ressources nous donner?
En tout cas, ça, c'est le côté positif de tout ça, c'est que depuis, je suis enfant de 3 ans, le sujet de l'adoption, il y a vraiment une parole qui émerge. Moi, j'ai vu, vraiment ces 2 dernières années, j'ai vu des personnes qui témoignaient par des comptes Instagram, par des podcasts aussi, qui en parlaient sur Twitter, et je me dis, mais tant mieux, tant mieux aussi qu'on ose maintenant prendre la parole, en fait, sur ces sujets-là, et qu'on se dit, notre parole est légitime, nos vécus, nos ressentis, et c'est important d'en parler, de casser justement ce discours à sens unique, et romantisation de l'adoption, et c'est ça aussi, surtout le discours est à sens unique, où c'est uniquement la parole des parents qui ont adopté qui est audible, qui est promu, qui est divulgué partout, il y a des livres là-dessus, mais jamais la nôtre, alors que c'est quand même nous les premières personnes qui sommes concernées par l'adoption, et finalement c'est pas notre parole qui est la plus écoutée. Donc là je me dis, tant mieux, là ça commence à émerger. Donc alors moi il y a la bande dessinée qui s'appelle Couleur de peau miel.
Oui.
Je sais pas si tu connais.
Oui, je connais.
Voilà, j'ai été introduit par ça, magnifique, vraiment magnifique, ça a été aussi une très belle c'est un coréen si je me trompe pas.
Oui, c'est ça exactement.
Okay,
pense,
coréen.
Je sais plus.
On a pas
je
envie sais. De faire c'est coréen. Oui, c'est un coréen.
Oui, c'est un, hein, oui. Enfin, je suis pas sûre à 100%, donc on va regarder.
Mais c'est un coréen, oui. Oh, lui, il est quand même plus âgé. Oui, il est plus âgé que moi, voilà. 40, 35, 40.
Je pense qu'il a mon âge.
39, 40. Les générations aussi, la vieillesse.
Ça, c'est ma génération.
Ça, effectivement.
On a de l'arthrose.
Et Mulan, je me dis, c'est impressionnant quand même. Avec Dorgan, je me dis, c'est impressionnant quand même qu'il a réussi à être publié, mais tant mieux, vraiment, c'est vraiment magnifique. En plus, il y a une adaptation cinématographique que j'ai vue qui est très belle aussi.
Je l'ai pas
vue,
par contre.
Très belle, ouais. Vraiment très belle. Donc, il y a ça que je conseillerais. Alors, J'espère un jour que ça sera édité en français, mais il y a un livre que j'ai lu de Nicole Chung, si je me trompe pas, qui elle aussi est coréenne, elle est américaine.
Oui.
Et elle est adoptée aussi, elle a été aussi adoptée par des parents blancs, elle est journaliste. Elle a écrit un livre sur ça, c'est un mémoire qui s'appelle All You Can Ever Know, un titre comme ça.
D'accord, non, tu
l'as pas. Et c'est un très beau livre, biographique sur sa vie où elle parle d'adoption. Elle parle aussi d'adoption, voilà, en tant qu'elle maintenant, je crois, qui est mère aussi, et comment comment ça l'a ramenée à tout ça. Magnifique. Malheureusement, par exemple, c'est qu'en anglais, j'espère que ça sera.
Mettez-vous à l'anglais.
En français. Voilà, exactement. Les maisons d'édition, faites votre travail. Bah, il y a le documentaire d'Amandine Gay, voilà, qui sera sorti, une histoire à soi, un livre aussi qu'elle écrit, qui va être publié à la rentrée. Il y a un livre qui est publié il y a une ou deux semaines.
Oui.
Qui s'appelle, je me souviens plus du titre, mais c'est sur le mythe de l'adoption et ça a été écrit par Joey qui est aussi une
ah oui non bah oui Joey oui oui voilà. Alors attends, bah oui, parce que ça tombe bien, on va avoir le livre, donc
exactement. Bah, je crois que ça s'appelle le mythe de l'adoption,
oui,
hein,
oui,
qui
oui,
est excellent aussi, hein, excellent. Je l'ai pas lu, mais bon, je suis sa page Instagram où elle en parle aussi.
Oh,
excellent,
oui, oui.
Aussi vraiment, ça m'a j'ai appris énormément de choses. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de pages Instagram. Bah, il y a celle de Joey, il y a le mois des adoptés, prépare Amandine Gay.
Un petit message aux personnes, wow. Bah, aussi aux personnes racisées, en fait,
vrai,
qui ont été adoptées.
Bah, du soutien. Enfin, moi, c'est ce que je dis, vraiment beaucoup de soutien, beaucoup d'amour et de bienveillance, parce que voilà, moi, c'est ce que je dis, c'est que nos vécus sont légitimes, nos ressentis aussi. On n'est pas seuls. Ça, c'est important. Voilà, comme je disais, voilà, moi, je suis trouvé dans des périodes d'isolement assez violentes. Et maintenant, me dire que grâce aux réseaux sociaux, j'ai pu rencontrer des personnes adoptées, ça a été aussi un énorme soulagement de me dire, bah, je suis pas seul, en fait. Il y en a beaucoup. Et
est-ce qu'il y a des groupes de parole, du coup?
Je pense qu'il y en a. J'en fais pas partie, mais je sais qu'il y a, il y en a un qui s'appelle La Voix des Adoptés. J'imagine qu'il doit y avoir des groupes de parole, non, c'est par cette association. Et je pense qu'il y en a, oui, oui. Et voilà, ça fait un bien fou, quoi, de dire que voilà, qu'on n'est pas seul, que du soutien, que l'amour, de la bienveillance, parce que, bah, c'est difficile et on se sait, voilà, entre les personnes adoptées, ce qu'on a pu vivre, ce qu'on peut vivre actuellement. Et aux parents, waouh, bah, juste, s'éduquer sur le racisme. Vraiment, ça serait juste le béaba. Avant d'adopter, ou si l'adoption a été déjà faite, s'éduquer sur le racisme.
Tu penses que c'est le point le plus important aujourd'hui en tant que parent adoptant? Est-ce que c'est pour toi la chose qui a été la plus lourde, on va dire?
Pour moi, oui. En tout cas, dans mon cas personnel, ça a été le point qui a creusé ce fossé entre moi et mes parents et qui a fait qu'il y a eu cette séparation, en fait, cette rupture familiale qui, heureusement, s'est bien terminée, mais c'est le racisme. Voilà, c'est vraiment, ça a été voilà, le fait qu'ils soient pas éduqués avant, le fait qu'ils aient pas pu, voilà, remettre en question leur biais raciste, qui a fait qu'on a dû en arriver là à un moment donné, voilà. Et voilà, surtout que maintenant, voilà, surtout qu'on vit à une période où on a beaucoup d'ouvrages sur le racisme, il y a des podcasts, il y a des livres, il y a des émissions, il y a des interviews, donc maintenant, c'est bien, enfin, tant mieux, on vit à un temps où on a tellement de ressources là-dessus. Et surtout que voilà, maintenant on peut, enfin, comme le sujet de l'antiracisme est maintenant partout, on peut plus tourner la tête, quoi. On peut plus détourner le regard, ça existe, on a mis ça sur la table, des personnes l'ont mise, des personnes qui ont fait un travail formidable, des universitaires, des militants, des chercheurs, des chercheuses, enfin, tout le monde, tu vois, et qui ont fait un travail depuis des années, tu vois, enfin, voilà, depuis des dizaines d'années, et je pense que ça, pour moi, en tout cas, c'est l'un des points les plus importants pour que l'adoption se passe au mieux. Et après, comme t'as dit auparavant, hein, c'est qu'est-ce que ça veut dire aussi d'adopter un enfant, est-ce que c'est un choix égoïste, et ça, bon, sachant que c'est un sujet vachement tabou, hein. Je pense que si on va dire à des gens, voilà, l'adoption c'est quand même égoïste de base, même pour un enfant, ils vont dire, hein, comment ça? Et ça sera pas recevable. Mais moi, je vais se questionner là-dessus. Et être à l'écoute de l'enfant aussi. Moi, je sais que, par exemple, juste pour finir, c'est vrai que ça a été une des expériences qui m'a le plus marqué. C'est que quand Extimité est sorti, j'étais en contact avec, une personne qui souhaitait adopter avec son mari, donc c'est un couple homoparental, et on a échangé pendant plus d'un an là-dessus, parce que et j'ai suivi, en fait, leur toutes les étapes de la procédure d'adoption. Maintenant, ils ont la procédure a été passée, ils ont l'enfance un peu bizarre comme ça, mais ils ont adopté, ils ont une famille, et on a échangé pendant un an et demi là-dessus. Où ça a été un échange de conseils, qui me demandait comment bien faire en tant que parent adopté, parce que, bah, de parents blancs, hein, de d'un blanc qui a adopté, non. Je sais plus de quel pays il vient. Mais voilà, un envoyé n'est pas
blanc. Mais tu vois, je trouve ça vraiment important ce que tu viens de dire, de dire qu'il y a des parents quand même qui ont fait la démarche.
Exact.
De se renseigner sur le vécu des enfants adoptés venant d'un autre pays ici en France, ou des enfants racisés, parce qu'il y a aussi des enfants racisés qui sont adoptés, hein, qui viennent pas forcément d'un autre pays.
Exactement. Ça,
mais
oui,
ils sont en France et ils sont racisés et ils sont adoptés, et de se dire que ces enfants-là auront toujours un vécu différent qu'un enfant blanc, et que si les parents n'ont pas conscience de ça, si les parents ne se sentent pas poser la question.
Catastrophe.
C'est une catastrophe. Voilà, c'est une catastrophe.
Et moi encore, voilà, moi je suis partie des chanceux où ça s'est bien terminé. Parce que comme je dis maintenant avec mes parents, voilà, il y a eu des excuses, on a des rapports apaisés, on reconstruit ça au fur et à mesure, et je suis, bah, je veux dire, je suis chanceux, je suis chanceux qu'on parle à d'autres personnes, ça n'a pas été le cas, en fait, parce que pour eux, il y a quand même une remise en question, ils ont réussi à se dire, bon, ok, c'est bon. En fait, je pense que ce qui a peut-être sauvé aussi notre relation, c'est qu'ils voulaient pas me perdre, en fait. Et je pense à un moment donné, une fois que j'ai coupé les ponts, ils se sont dit là c'est très grave. Là il y a, et moi j'étais parti du fait que s'ils sont en question, bah c'est fini, et j'allais partir sur voilà une rupture familiale, et ça allait être fini entre nous. Et je pense que c'est un peu mieux le dire ça, je pense que l'amour a sauvé la chose, que ils voulaient je suis leur enfant, et que avant tout bah ils m'aiment quand même. Et qu'il fallait pas me perdre, c'est ça qui a sauvé la relation. Mais je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Et que j'ai des amis ou des connaissances avec qui l'adoption s'est très mal passée, et où là justement il y a plus aucun contact avec les parents, ou même pas pour des nouvelles, mais à but financière, tu vois, et c'est très irrévélable, mais c'est le cas. Et donc moi je dirais ça, c'est que si vous voulez que tout soit bien avec votre enfant, bah faites tout pour que ça se passe bien, et c'est pas à l'enfant de faire les démarches, en fait. Ça devrait pas être à l'enfant de faire les démarches, et ça devrait pas être à nous de faire toutes ces recherches, parce que c'est long, c'est douloureux, c'est compliqué. Et ça devrait être aux parents, quoi.
Donc puis moi, c'est le travail du parent, en fait. C'est
mine
comme
de rien.
Tout.
Voilà. Bah, c'est leur responsabilité.
C'est, voilà, c'est notre responsabilité de faire.
De faire que le bien-être, si le bien-être de l'enfant c'est votre priorité, bah faites tout pour que l'enfant soit bien dans sa nouvelle famille. Surtout une famille, voilà, c'est une famille où les parents sont blancs et où l'enfant va avoir un vécu différent des parents, quoi. Et ça, en tout cas pour conclure, je pense que ça serait pour moi le plan le plus important, c'est de réaliser que l'enfant n'aura jamais un vécu similaire au vôtre parce qu'il n'est pas blanc, parce qu'il va subir du racisme de la part aussi de la famille. Et ça, c'est très important à pointer, hein, qu'il n'y a pas que les parents dans la famille, il y a les grands-parents, il y a les cousins et les cousines, et que de cette famille-là, il pourrait aussi émerger un racisme assez insupportable, quoi. Donc de tout, société, famille, quoi.
C'est pour ça que tu parlais des enfants métis aussi tout à l'heure.
Oui, voilà, c'est vrai qu'on a eu, c'est vrai qu'il y a eu des vécus, c'est impressionnant, tu vois, que j'ai pu parler de ça avec des personnes aussi, qui sont pas adoptées, mais qui sont pas métis, c'est de me dire, et qui venait moi, mais c'est vrai que je me reconnais, quoi, dans certains de tes propos, parce que j'ai un de mes parents qui est blanc, donc ce parent-là, soit il est raciste, soit cette famille-là est raciste, soit il comprend pas, etc. Et il y a ce fait d'être en équilibre sur un fil entre deux cultures, quoi. Et je pense que c'est pour ça que d'autant plus le sujet de l'adoption est important, parce que finalement les problématiques auxquelles on se retrouve confronté ne concernent pas que les personnes adoptées, en fait.
Non.
Et on remet en question le racisme de nos familles, le racisme de la société, la quête identitaire, quoi. Donc voilà.
Encore merci pour tout, Jean-Victor.
Merci depuis le temps qu'on voilà.
On se rencontre enfin. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à suivre Jean-Victor sur son compte Instagram, sur Twitter. On peut te retrouver où à part Instagram et Twitter?
Vraiment, c'est mes deux réseaux.
C'est ces deux réseaux. Voilà.
Et c'est vrai que sur mon, sur les deux, hein, sur mon Instagram et sur mon Twitter, dans la bio, j'ai mis un lien avec toutes les
références
que j'ai pu faire, etc.
Exactement.
Toutes les références. Donc si jamais ça intéresse, si vous voulez en savoir plus.
C'est quoi ton blaze sur Twitter ou Insta?
Ouais. Flumed, FLUMEED.
Voilà, c'est ça, Flumed. C'est son blaze. Écoutez, merci à vous. Et puis, on se dit à très bientôt, les amis. Tu dois dire au revoir, les amis.
Au revoir, les amis.
Vous venez d'écouter Les Enfants du Bruit et de l'Odeur. Si le podcast vous a plu, alors soutenez-le. Partagez autour de vous. Suivez-nous sur Instagram. Vous pouvez même envoyer vos questions ou vos réflexions. Et surtout, mettez-nous une pluie d'étoiles et de beaux commentaires sur vos applications de podcast.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.